Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Morlaine.
Salut.
D'ATH.
Bonjour.
Et de Ben.
Salut.
Pas de B2G cette semaine. Il s'est dit que bon, puisqu'on était déjà quatre, c'était pas la peine de venir avec nous. Il a bien raison. Vous réalisez les gens, c'est, je crois que ça fait très très longtemps qu'on s'est pas dit non, on est trop nombreux là, faut. Faut qu'il y ait quelqu'un qui participe au podcast. C'est incroyable. Allez, au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons d'un nouveau Valkyria. On enchaînera ensuite sur un retard de Deus Ex. Du côté de Dark Souls 3, on parlera d'un changement à venir dans la série, une sortie du côté de Don't Starve, c'est la nouvelle extension, c'est ça?
Tout à fait.
Voilà. Du côté de la PS4, il paraît que bientôt, il y aura une console qui sera émulée dessus. Et enfin, pour terminer, un bouleversement dans notre vie, n'est-ce pas? Un changement sur les règles des soldes chez Steam. Vous allez voir, c'est totalement perturbant.
Inédit.
Voilà, c'est la première fois que je vois ça, donc bon, on évoquera ça tout à l'heure. Mais avant de commencer cette semaine d'actualité, j'aimerais faire un petit erratum sur Indivisible. La semaine dernière, nous avions évoqué ce projet qui avait bénéficié d'une extension chez Indiegogo, n'est-ce pas? Or, j'avais dit que je pensais que le projet avait eu une extension parce qu'il était à $1 million et que Indiegogo il voulait absolument ces sous-là, quoi. En réalité, nous avons donc eu un de nos auditeurs qui nous a signalé que, ben, tout simplement, c'était une règle d'Indiegogo. Merci à toi, Herman. Parce qu'il se trouve que les développeurs du projet ont précisé qu'en fait, quand tu avais réussi à engranger 60% de la somme que tu demandais, ben, ils pouvaient t'accorder une rallonge. Pour être précis, nous sommes allés sur la FAQ d'Indiegogo, et apparemment, tu peux demander jusqu'à 60 jours d'extension, en fait. Il faut que tu contactes les équipes de support d'Indiegogo qui voient ça avec toi, tout simplement. Et donc là, en l'occurrence, sur Indivisible, ils ont obtenu 20 jours en plus. Donc voilà, c'est une règle chez Indiegogo, ce n'est pas une exception à la règle, ça fait partie de la règle. Donc, nous allons maintenant parler, mon cher Ben, d'un nouveau Valkyria Chronicle.
Eh oui, donc cette semaine, on apprend qu'il va y avoir en fait deux Valkyria qui vont sortir. Alors, un remaster de Valkyria Chronicle sur PS4, et aussi un jeu inédit qui va s'appeler alors La Révolution Azur, en français, qui est donc en développement en ce moment sur PS4. Et bah c'est... Alors, je pense que toi, Tyran, tu as dû y jouer au Valkyria Chronicle.
Oh oui oui.
Non mais c'est une bonne chose. On avait déjà eu le retour cette année, je crois, sur Steam, qu'ils ont ressorti le Valkyria Chronicle. Et là, on apprend que voilà, la licence ressort, fait un inédit, et c'est plutôt une bonne chose parce que c'est un jeu Sega en plus. C'est assez rare. Et c'est un tactical RPG qui est vraiment sympathique pour ceux qui aiment le style.
Le problème, c'est que celui-là ne sera pas un tactical RPG.
Oui, voilà. Alors celui-là, ouais, ça va être un peu différent. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment. Il y a un teaser, mais on n'a pas vu de gameplay. Mais a priori, oui, en effet, ça le système va changer par rapport aux anciens.
Alors, c'est un JRPG a priori, donc ça m'intéresse. Parce que les JRPG sur console de salon, ça vous aura pas échappé. C'est particulièrement rare, on va dire. En tout cas, ceux qui ne viennent pas de chez Square Enix. Du coup, en fait, quand je vois la description du projet, déjà, je n'ai qu'une peur, c'est que ça soit un Musou. Parce que quand tu lis la description, alors un truc action où tu bastonnes plein d'ennemis, de loin, ça ressemble quand même vachement à un Musou, donc ça me fait peur, déjà. Après, moi, ça m'intéresse, mais les fans de Valkyria Chronicle, et j'en fais partie à la base, mais si vous voulez, comme j'aime aussi les RPG, donc voilà, ça m'intéresse, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont dégoûtés, là, en fait. Parce que tu leur annonces un jeu d'action avec ce qui était à la base une licence tactique, surtout que les jeux d'action, c'est pas comme si on n'avait pas déjà une chier. Donc forcément, enfin, je suis un peu mitigé, parce que si vous voulez, la direction artistique, elle défonce.
Le teaser est vraiment vraiment joli, ouais.
Autant sur le plan technique, c'est pas fou, mais autant le rendu, alors c'est un nouveau rendu, c'est plus trop du crayonné, c'est plus de l'aquarelle, enfin bref, j'aime beaucoup. Mais après, au-delà du rendu, qu'est-ce qu'on va voir comme gameplay? Moi, c'est la question que je me pose. Aussi, apparemment, ça ne se passera plus dans l'univers de Valkyria Chronicle, c'est un autre univers, carrément.
En fait, c'est une espèce de spin-off un peu qu'ils font à la série, donc c'est, voilà, l'univers change un peu aussi, ouais.
Voilà, d'où le fait qu'il ne s'appelle pas Valkyria Chronicle 4, j'ai
envie de dire. Exactement.
Alors, si ils arrivent à faire un jeu d'action, mais avec un peu de tactique dedans, et finalement qu'ils arrivent un peu à renouveler la formule, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Par contre, si c'est un jeu qui n'a vraiment rien à voir avec la licence, honnêtement, je comprendrais si les fans gueulent, quoi.
Ouais, après, c'est vrai que, enfin, aujourd'hui, on voit beaucoup, les tacticals, ça se fait de moins en moins. Mmh. C'est des trucs qui marchent pas forcément aujourd'hui, donc c'est vrai que, avoir un renouveau dans le système, peut-être faire un peu des deux, je sais pas exactement comment c'est, enfin, ils peuvent le réaliser, mais c'est vrai que, comme tu dis, aux fans, ça plaira pas s'il y a pas du tout de tactical. Et, mais par contre, si c'est que du tactical, ça va avoir du mal à amener des nouveaux joueurs dans la série, quoi.
Ah, parce
j'ai
que
peur.
Il faut voir une chose quand même. En quoi Valkyria Chronicle innovait un peu par rapport aux autres RPG tactiques? C'est que c'était un espèce d'hybride entre TPS et RPG tactique. Mm. Quand tu prenais le contrôle d'une unité, t'avais la vue derrière où tu la voyais courir, etc., où tu la contrôlais, enfin, comme si tu contrôlais un personnage dans un TPS, quoi, en fait. Et du coup, je me dis que, fondamentalement, ça pourrait être une évolution de ce système-là, encore plus action, quoi, si tu veux.
Ouais.
Ça pourrait être plus un jeu stratégie en temps réel qu'un RPG tactique en tour par tour. Et ça, pourquoi pas? Ça m'intéresse très fortement. Mais encore une fois, faut voir ce qu'ils vont faire avec. Si c'est juste un bête jeu d'action où t'as aucune réflexion par rapport à la situation tactique et stratégique de la carte, tout de suite, honnêtement, ça m'intéresse moins. Alors après, si c'est un RPG qui propose d'autres choses à côté, c'est intéressant. Par contre, si c'est un musou, Non, désolé, non.
Ils peuvent faire aussi un action RPG. En termes de vente, le tactical, c'est un petit peu un genre de niche, même si Fire Emblem marche pas mal en ce moment. C'est vrai que je pense que s'ils vont vers un côté plus action et sans laisser de côté tout ce qui est narration, histoire, ça peut aussi faire un bon jeu.
Alors après, oui, non, mais je dis pas que ce sera un mauvais jeu. Je dis juste que les fans auront raison de gueuler parce que bon, c'est un peu facile à un moment donné de prendre une licence, d'en faire totalement autre chose et dire merci de l'acheter les fans, au revoir quoi. Enfin voilà, c'est juste ça que je veux dire. Après, je dis pas que ce sera un mauvais jeu, attention, hein, je dis pas du tout ça. Je dis juste que je n'aime pas cette pratique en général qu'ont certains éditeurs de prendre une licence et d'en faire totalement autre chose et de dire bah attends, on est en train d'innover alors que fondamentalement ils font juste un bête jeu d'action avec quoi. C'est ça que je veux dire.
Après, c'est pas du tout un Chronicle. Donc
ouais, enfin ça, il y a quand même Valkyria Chronicle dans le titre et surtout ça, c'est même pas le même univers en fait.
Ouais, mais bah, bon,
tu vois,
c'est le nom de la licence quoi.
Ouais, mais je veux dire un spin-off normalement, au moins ça se passe dans le même univers. Là, c'est alors oui, on appelait ça Valkyria Chronicle mais ça a pas le même univers, ça a pas le même système de jeu, on garde juste le rendu. Ouais, enfin
après ouais, mais après ça peut être justifié d'un point de vue économique si ils souhaitent en vendre plus.
Ah, mais attention, je ne dis pas que c'est pas justifié d'un point de vue économique.
Non, mais moi, je
dis juste
que
vis-à-vis des fans, voilà.
Que par rapport au fait que Valkyria Chronicles, ils vont continuer à en développer, mais ça sera plus voilà, le jeu de niche qui va contenter les fans et qui fera plaisir. Et si le spin-off marche, ça peut faire un peu, tu sais, comme Persona et Shimigami Tensei, où Persona, en fait, c'était le spin-off de Shimigami Tensei, et finalement, bah Persona est plus connu que le jeu d'origine, quoi.
Ouais, mais j'ai un doute, hein, parce que, enfin... Comment dire, Sega, c'est pas un éditeur qui a énormément de pognon, on va dire. Je pense que leur moteur, ça a dû leur coûter cher à développer quand même, et que du coup, si ça marche vraiment mieux que l'autre, je pense que l'autre, il va passer aux oubliettes vite fait, quoi.
Ouais.
Mais bon, on verra après. En tout cas, là où il y a mon pouce vert, c'est sur la DA. Mais vraiment, c'est-à-dire que enfin, un JRPG qui a compris que ça ne servait à rien de faire des graphismes 3D réalistes. Là, c'est un jeu qui a son identité, tu vois, c'est pas un jeu où tu vois des persos, t'as l'impression que c'est des monstres, quoi, tellement ça colle pas du tout avec le rendu, quoi. Enfin, bref.
Par contre, ouais, faut pas être pressé, parce qu'il est, ouais, il est annoncé pour l'hiver 2016 au Japon, donc, voilà, on a le temps de voir des choses d'ici là, ouais.
Mais, tiens, ne serait-ce pas une pique que tu lances envers Xenoblade Chronicles avec ses personnages?
Non, c'est pas du tout à Xenoblade que je pensais, c'était au prochain Star Ocean, que je trouve horrible en termes de rendu des persos. Alors Xenoblade aussi, il est un peu dégueulasse, hein, mais au moins il a des beaux décors.
Ouais.
Mais Star Ocean, bon déjà le jeu est moche à la base, et en plus tu vois le rendu des persos, mais pff, moi je sais pas, j'ai trouvé super flippant quoi. Enfin, j'aime pas du tout ce rendu-là. Allez, bref, on passe à la suite, et on va maintenant parler d'un retard pour Deus Ex.
Oui, Deus Ex Mankind Divided, qui avait été annoncé pour le 23 février 2016, a été décalé par son éditeur et développeur. éditeur c'est Square Enix, développeur Eidos Montréal, qui dont le chef du studio en fait David Anfossi a dit en fait que ils sont actuellement en train de jouer à l'intégralité du jeu. Et ils se rendent compte en fait que il va nécessiter plus de temps en post-production pour voilà le raffinement afin d'atteindre leurs standards de qualité qui sont élevés, nous dit-il. Donc en gros voilà, ça sortira pas avant le 23 août, c'est-à-dire que voilà, il y a un retard de 6 mois quand même à l'allumage de Deus Ex Mankind Divided. Bon, j'ai envie de dire que est-ce que c'est ça nous étonne maintenant des retards pour des triple A comme ça, bon, plus bah, vraiment.
J'ai envie de dire vaut mieux qu'il soit retardé plutôt qu'on ait Batman Arkham Knight.
Ouais, mais c'est clair. Voilà, c'est maintenant on, j'ai envie de dire que ça, toutes les semaines presque on s'habitue à dire tout le temps la même chose, c'est-à-dire mieux vaut ça que l'énorme four qu'avait fait Assassin's Creed Unity, tantôt c'est Assassin's Creed Unity, tantôt c'est Batman Arkham Knight. Bref, c'est bon. Je pense que ça c'est un petit peu le cycle qui va devenir habituel maintenant dans les jeux vidéo AAA, c'est qu'on il va falloir s'habituer à...
Ça fait déjà un moment. Hein.
Ouais, ça fait un moment déjà
mais là il y a enfin ça fait un moment mais là quand même on a une succession de reports qui est assez importante.
C'est-à-dire que moi maintenant je finis par me dire oui, ils annoncent cette date-là mais en réalité ça va être beaucoup plus tard. C'est la première chose que je vous ai dit d'ailleurs quand Far Cry Primal a été annoncé.
Ouais.
Lui aussi d'ailleurs, il est maintenu au 23 février mais je suis persuadé qu'il sortira pas le 23 février.
On va dire que le 23 février, c'était un peu l'embouteillage, il y avait Deus Ex qui était prévu, Mirror's Edge 2 qui était prévu aussi et puis Far Cry qui est arrivé à la fin qui a dit bon bah nous aussi on veut le 23 février. Et je sais pas si c'est parce que voilà Deus Ex a eu peur de la confrontation avec Mirror's Edge et Far Cry en même temps.
Mirror's Edge qui a été décalé au 24 mai d'ailleurs.
Petit troll au passage, honnêtement personne n'a peur de la confrontation avec Mirror's Edge.
Non mais Mirror's Edge pas, mais peut-être que Far Cry c'est quand même des jeux qui
c'est autre chose.
Qui sont vendus à je crois que le dernier Far Cry 4 était vendu à 5 millions d'exemplaires. Peut-être qu'ils voilà, ils sont dit bon ça va faire trop de jeux le même jour. Et il y avait aussi toute une narration qui était faite aussi sur tout ce qui est cyberterrorisme et terrorisme. Et avec les événements de la semaine dernière, peut-être que il s'était pris en compte dans le développement du jeu.
Ouais, j'y crois pas trop, ça, je pense.
Non, honnêtement, un éditeur, moi, je pense pas. Par contre, honnêtement, hein, moi, ça m'inquiète toujours quand un jeu est reporté 6 mois comme ça, parce que ça veut dire qu'il y a des merdes dans le développement. Les 6 mois de retard pour du polish, j'y crois pas trop. Hein. voilà.
Ouais, c'est beaucoup 6 mois hein, pour du polish.
Ça fera un gros polish, quoi.
ouais.
Bon, en tout cas, si ça peut leur permettre de bosser leur boss et d'avoir une fin qui ressemble à quelque chose, ça sera pas mal. Hein. Je ne vise personne, n'est-ce pas?
Ça a été promis dès l'annonce du jeu que les combats de boss, on sera plus obligé de se les faire comme un FPS lambda. Et puis, la fin... Pour moi, c'était le plus gros défaut du Human Revolution.
Bah, c'était une fin à la Mass Effect, quoi.
Ouais, mais là, c'était vraiment pire. Tu rentres dans une salle et puis t'appuies sur 4 boutons. Enfin, c'était vraiment comme Mass Effect 3, quoi.
Bah ouais, sauf que effectivement, Mass Effect, il y avait un truc en plus. Il y avait les couleurs.
ouais, c'est vrai que. Mais enfin, dans Deus Ex aussi, il y avait un truc qui était en plus. C'était genre si tu faisais le jeu en totale infiltration, t'avais une quatrième fin qui était disponible, mais tu appuyais toujours sur un bouton qui était derrière, quoi, et qui était débloqué. Donc moi, ce que j'avais fait quand j'avais joué au jeu, c'est j'avais fait ma sauvegarde dans la salle de fin. Et puis en fait, j'ai lancé la fin que je voulais au début, j'ai vu, je fais putain mais c'est ça la fin, c'est à chier. Et puis j'ai fait tous les autres boutons, j'ai fait bon bah j'ai vu toutes les fins, salut.
Alors fun fact, le 23 août 2016 en fait, c'est 5 années jour pour jour après la sortie de Deus Ex Human Revolution.
D'accord.
La boucle est bouclée.
Voilà. Bon bah en tout cas, un projet qu'on attend avec impatience et on croise les doigts pour que ça sorte dans un état correct,
moi, ce qui me ferait rire, c'est qu'ils sortent le jeu le 23 août et puis que le jour de sortie, il y a un patch Day One qui sort avec. Ça me ferait sourire.
Oui, enfin, ça, encore une fois, comme toujours.
Si j'ai envie de dire, c'est standard maintenant.
Ouais, mais bon, avec 6 mois de report, s'ils pouvaient nous le mettre directement dans le jeu de base, ça serait cool, quoi.
Bon, ATH, tu conserves la parole et on va maintenant parler de l'avenir de Dark Souls.
L'avenir ou peut-être la fin de Dark Souls. C'est le président de From Software qui avant était développeur sur Demon's Souls et Dark Souls.
Producteur, pour être précis.
Voilà. Et qui souhaite en fait que Dark Souls 3 soit l'ultime épisode et le dernier de la série des Souls. personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne initiative de leur part si les propos sont maintenus, parce que on sait très bien que les annonces comme ça, surtout lors d'une interview, ne sont pas toujours tenues. Et puis quand il y a les actionnaires qui poussent derrière, ils disent bon bah ok, vous sortez d'Armor Hardcore, mais ça se vend pas beaucoup.
Surtout que c'est pas vraiment un culture de l'entreprise. Hein. Je rappelle avant les Kingsfield, ils en ont sorti What Million. les Armor Hardcore c'est pareil, on en a eu What Million aussi. Enfin bref. Après, Hidetaka Miyazaki vient de prendre la direction de la boîte. Je me dis que est-ce qu'il a envie d'insuffler une nouvelle direction maintenant que c'est lui le boss, pourquoi pas. Mais il y a un truc dont je suis persuadé, c'est que s'ils sortent une nouvelle licence et que ça marche pas, derrière tu auras un Dark Souls. J'en suis persuadé. Enfin, ça, je n'y crois pas une seconde personnellement qu'ils vont arrêter la série s'ils n'ont pas un remplaçant qui leur permet de maintenir les effectifs qu'ils ont là actuellement dans leur boîte. Ils sont pas fous non plus. Hein.
Enfin, si on compte les Demon's Souls plus Bloodborne, qui sont plus ou moins rattachés à la série, ça va faire le 5e jeu en 7 ans. Ça fait quand même un petit peu beaucoup, et puis je me suis lassé par exemple de Assassin's Creed, parce que le jeu sort tous les ans, il y a pas beaucoup d'évolution par rapport au précédent. Les jeux qui sont annualisés, ça commence à me saouler de plus en plus. Là, c'est pas des jeux qui sortent tous les ans, mais enfin ils sortent tous les 2 ans, mais ça commence quand même à faire beaucoup, même si c'est un jeu que une licence que j'apprécie quoi.
Ah mais je suis d'accord, mais enfin de toute façon, il y a un problème si vous voulez, c'est que Dark Souls, c'est la seule licence de From Software qui se vend 1 million. C'est tout. Alors, à un moment donné, moi, je veux bien toutes les considérations de joueurs que vous voulez. Les mecs, ils ont des gens à payer, et c'est pas avec Armor Record qu'ils vont financer le studio. Ça, c'est sûr.
Ouais, mais est-ce que Bloodborne est considéré comme un soul?
Oui, enfin, vu ce qu'il dit en interview, oui. Enfin,
lui, bah, Bloodborne, oui, c'est, enfin, il le considère vraiment comme un soul, parce que, okay. Il le rattache vraiment à la série. Parce qu'en fait, à la base, Demon's Souls, c'était un jeu qui était exclu PS3 parce que il y avait des gars de chez Sony qui travaillaient dans le développement, puis Sony a mis des billes dans le projet. Ils croyaient pas trop à la licence d'ailleurs parce qu'ils l'ont laissé filer chez Namco Bandai. Enfin, ils sont partis, mais comme Sony détient les droits de propriété intellectuelle sur Demon's Souls, ils ont appelé le jeu Dark Souls. Donc, il y a toujours la référence, si tu veux, aux âmes dans le jeu.
Ouais.
Là, Bloodborne, c'est quasiment pareil, sauf qu'à la place des âmes, t'as du sang. Mais si tu veux, tu restes quand même dans la même lignée que les précédents, sauf que bon, le jeu est un peu plus nerveux, il y a pas tout ce qui est bouclier, tout ça. Mais tu restes dans l'ADN de la série. Mon Bloodborne, apparemment, Sony a beaucoup apprécié parce que le jeu, à sa sortie, a fait quand même 2 millions d'exemplaires pour un jeu comme ça qui est assez difficile.
Ouais, c'est clair.
C'est plutôt une bonne chose. Après, j'ai vu quand même beaucoup de retours de Bloodborne en magasin, quoi. C'est-à-dire des gens qui ont acheté le jeu, ils savaient pas peut-être ce qu'ils achetaient.
Bref, dans tous les cas, moi, si ça s'avère vrai, c'est une bonne nouvelle. Je suis curieux de voir ce que va faire From Software à l'avenir, parce que c'est l'un des rares studios japonais qui, pour moi, sort du lot actuellement. Et surtout, je suis très intéressé par le fait de voir ce qu'ils ont comme idée pour la suite, quoi, parce que quand même, même si Demon's Souls empruntait pas mal de choses à Kingsfield, il avait sa propre identité en termes de gameplay et en termes d'ambiance. Donc bon. Je suis curieux de voir ce que va faire ce studio, parce que quoi qu'il arrive, ça veut dire que il y a un nouveau projet dans les cartons.
Enfin, oui,
quand un président qui t'annonce ça, c'est que il prévoit quelque chose derrière. Quoi qu'il en soit, ce sera le test de From Software, parce que pour moi, si vous voulez, en fait, Demon's Souls, c'est un peu un truc qui est arrivé là par hasard, quoi. Enfin, c'est un peu le succès. On a fait ce jeu-là, on sait pas trop si ça va marcher, et puis ah surprise, il fait plus d'un million d'exemplaires. Et pour le coup, on va vraiment voir si From Software a engrangé suffisamment de notoriété pour réussir à vivre sans Dark Souls. Et ça, je suis pas persuadé qu'ils ont réussi. Hein. Parce que, honnêtement, quand tu vois les ventes des derniers Armored Core alors que Dark Souls était là, ça a rien changé. Hein. Donc, voilà.
Ah, mais après, tu vois, dans Dark Souls, le truc que j'ai apprécié le plus, c'est la direction artistique. Donc, je pense que quand même, From Software, ils ont des artistes de ouf malades. Et j'aimerais bien les voir travailler sur d'autres projets. Et ça serait super intéressant d'avoir quelque chose de neuf à proposer. Après, je demande pas un jeu forcément hardcore comme peut être les Souls, mais il faudrait un jeu, voilà, qui puisse trouver un plus grand public sans être trop simpliste non plus.
Ouais, alors après, est-ce que tu peux arriver à trouver un compromis quand ta base de fans aime les jeux hardcore? Enfin, c'est ça qui est compliqué, tu vois.
Ça serait bien qu'ils trouvent un truc qui s'adresse pas aux gens qui ont aimé les Souls, mais qui est une nouvelle licence qui pourrait plaire à un plus grand public, enfin, pour leur survie. Hein.
Ouais, mais le problème de ça, si tu veux, c'est que derrière, il faut les sous pour faire connaître ta licence auprès du grand public, et t'as pas du tout la garantie que ça va plaire au grand public en plus.
Quoi. Ouais, mais après, je sais pas quelle est leur stratégie, parce que là, on sait très bien que... Quand From Software travaille sur un projet, il y a toujours un autre projet qui est en préparation à côté. Il reste à savoir quoi maintenant. Ah. C'est ça le point d'interrogation le plus important, je pense.
Ok. On s'arrête là, sur ce point-là, on peut enchaîner.
Ouais.
Ok. Don't Starve Shipwreck.
C'est la nouvelle extension de du fameux jeu de survie en 2D développé par Clay Entertainment, qui était sorti de l'Early Access il y a quelques mois déjà.
Auquel nous avons tous ici, enfin sauf ATH, mais donné beaucoup d'heures de notre vie, n'est-ce pas?
Si, j'ai joué un petit peu quand même à Don't Starve.
Ah, même toi?
Ouais, mais...
Vous voyez, même ATH y a joué, donc...
J'ai joué, mais pas très longtemps, parce que ça m'a vite saoulé, en fait.
Ouais, mais je peux comprendre, c'est spécial comme type de jeu. Alors, il y avait déjà eu une première extension qui s'appelait Don't Starve Reign of Giants, qui avait été ensuite suivie pas vraiment d'une extension, mais d'un nouveau focus sur le multijoueur avec Don't Starve Together. Et nouvelle extension solo cette fois, bon, qui va bientôt, j'imagine, être portée en multi, qui s'appelle Don't Starve Shipwrecked. C'est pas développé par Clay Entertainment cette fois, c'est développé par Cappy Games, qui sont les développeurs de Super Brothers Sword and Sorcery EP. Donc c'est eux qui se chargent en fait de développer la nouvelle extension de Don't Starve.
En fait, le studio d'origine en avait marre, c'est ça, de faire du Don't Starve.
Bah, je pense en fait le truc, c'est Clay Entertainment, vous savez, ils ont plein de différents projets, souvent originaux d'ailleurs. C'est eux qui font Mark of the Ninja par exemple, et je pense qu'ils ont pas non plus les moyens de continuer à la fois à développer leur succès Don't Starve et des jeux originaux. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers Cappy Games, pour garder en fait une nouvelle extension qui va proposer évidemment de nouveaux biomes, de nouveaux effets de saison et de nouveaux personnages. Le concept de Shipwrecked, comme son nom l'indique, Shipwrecked ça veut dire naufragé, vous allez pouvoir explorer en fait un monde qui n'est pas un simple continent, parce que dans Don't Starve vous ne pouviez pas traverser l'eau. Là, pour le coup, en fait, le monde de Don't Starve Shipwrecked va être sur différents îlots, une espèce d'archipel que vous pourrez en fait explorer en bateau. Donc voilà, tout l'attirail du naufrage est là, c'est-à-dire que vous allez arriver sur une plage, commencer à faire votre petite base avec une petite tente pour vous abriter de la pluie, pour vous endormir la nuit. Enfin bref, il y a tout l'univers graphique et visuel du naufrage qui est là. La bouteille à la mer, par exemple, le radeau de fortune, le petit chapeau de pirate. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. Des nouveaux mobs qui vont être amicaux ou hostiles, évidemment, avec les serpents empoisonnés, les singes. Et puis voilà, les palmiers les noix de coco, enfin bref, il y a vraiment une nouvelle direction dans Don't Starve Shipwrecked, qui n'est pas que du simple ajout de contenu comme avait pu le faire Reign of Giants. Là, pour le coup, vous allez vraiment avoir une nouvelle ambiance.
Bah, surtout le côté exploration avec le navire et tout, ça peut être vachement intéressant.
Et ce qui est assez cool, c'est qu'ils ont mis en place en fait donc dans l'exploration du bateau, parce que dans Don't Starve, je sais pas si vous vous rappelez, mais en gros, la carte se dévoilait au fur et à mesure que vous avanciez et que vous exploriez.
Oui.
Dans un monde où tu ne sais pas vraiment dans quelle direction sont les autres îles, ça peut être compliqué et ça peut être facteur de beaucoup de morts si tu ne sais pas où aller. Donc
bah, quand tu dérives sur la flotte,
c'est ça.
Tu dis, oh putain, quand je vais... Mais je pense qu'on va vraiment ressentir, tu sais, ce qu'on voit dans les films ou... ce que tu lis dans l'île au trésor, etc. C'est-à-dire que tu sais pas quand tu vas voir la Terre et tout, et t'attends désespérément de voir la Terre, et puis là tu vois, t'es quasiment mort et tout. Terre
C'est ça. Et là où c'est intéressant, en fait, c'est qu'ils ont ajouté plusieurs objets qui vont amener un peu plus de possibilités du côté de ce gameplay-là, en fait. C'est, par exemple, la longue vue. La longue vue s'utilise en fait uniquement sur le bateau, et vous pointez votre bateau dans une direction, vous utilisez la longue vue, qui va du coup perdre de son usabilité, on va dire, et ça va vous développer en fait dans cette direction la carte. Donc ce qui vous permet de savoir à peu près où est-ce que vous allez. Mais ça reste relativement limité, donc juste dans une seule direction, et la longue vue ne peut pas s'utiliser indéfiniment. T'as ça, et t'as aussi les bouteilles à la mer qui peuvent contenir des emplacements de trésors.
D'accord.
Donc voilà, et plein d'items super cool, genre la grenade noix de coco, c'est ça peut être, enfin, honnêtement, c'est ça m'a l'air assez cool. Ça va probablement me faire rejouer à Don't Starve. Ça sort en early access le 1er décembre prochain. Donc à surveiller.
Par contre, est-ce que on pourra y jouer en coop ou pas?
Je n'ai pas vu ça pour l'instant, les démos qui ont été faites au pour les joueurs à la PAX pour l'instant étaient uniquement solo. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de multijoueur, étant donné qu'il y a Don't Starve Together. Voilà, ça m'étonnerait que ça soit pas multi d'ici peu. Je suis pas sûr que dès Day One, tu aies l'implémentation du coop, mais à vérifier.
Ouais, ça serait vraiment dommage qu'il s'en passe, ouais.
Ouais, parce que moi, ça m'attirait bien de faire un coop avec toi sur ça, du ouais, coup. Parce clairement. Que le côté île, trésor, etc. Enfin, vous savez, moi, je suis fan de Skies of Arcadia. Île, le trésor, c'est un peu mon livre de chevet. Donc, bon, voilà, quoi.
C'est vrai que moi, pareil, j'ai eu le jeu et tout seul, j'ai pas plus accroché. Et on avait fait un coop avec Mordren. Et c'est vrai que, pareil, c'est pour moi, c'est le genre de jeu qui sont beaucoup plus intéressants en coop que ouais. Tout seul, quoi.
Beaucoup plus agréable à jouer. Ouais,
c'est peut-être pour ça que j'ai pas apprécié le jeu, vu que je l'ai fait tout seul. Et puis, enfin, déjà, à la base, je suis pas très fan des mécaniques où tu dois récolter donc voilà c'est... mais par contre Mark of the Ninja c'est un super jeu que je vous recommande, un jeu d'infiltration en 2D et franchement c'est voilà un très très bon jeu d'infiltration que si vous pouvez le faire n'hésitez pas.
Bah d'ailleurs je crois qu'on n'a pas eu de nouvelles du prochain jeu de Clay parce que leur dernier c'était quoi, c'était le jeu
Invisible
tactique. Ouais, Invisible voilà. Inc ouais.
Voilà et on sait pas sur quoi ils bossent là il me semble bon, en ce moment. Donc moi ça m'intéresse parce que ce studio, enfin vraiment ils sont très prolixes et en fait ce qui est intéressant avec eux c'est qu'à chaque fois ils tentent un nouveau truc. Quoi.
C'est ça.
Oui ils font pas les mêmes choses à chaque fois.
Ouais. Ninja, Don't Starve, enfin c'est des jeux qui n'ont rien à voir quoi. Enfin bref, on va passer maintenant à la PlayStation 4 qui va faire de l'émulation je crois.
Oui c'est à peu près ça. Ben en fait cette semaine on a appris que avec le pack collector Battlefront avec la PS4 qui va avec, il y aurait en plus trois jeux Star Wars de la PS2 qui étaient sortis à l'époque sur PS2. Et en fait il y a les mecs de Digital Foundry qui sont penchés sur le truc, voir comment c'était faisable et ils ont découvert qu'a priori c'était de l'émulation en plus améliorée pour arranger les choses. Donc qu'on sait que les émulateurs sont bien capables de faire ça. Donc c'est vrai que ça apporterait pas mal de choses et en plus du coup Sony a confirmé que c'était dans les cartons. Alors sans donner de date, sans donner plus de détails pour l'instant, mais ils ont dit que c'était dans les cartons. Donc on risque voilà prochainement d'avoir des jeux PS2 un peu remasterisés entre guillemets sur nos PS4, ce qui est une bonne chose parce que moi c'est vrai que la génération PS2, on a eu quand même pas mal de très bons jeux et ça serait pas mal de pouvoir les retrouver. Voilà, après c'est toujours pareil, voir le prix, voir la qualité, mais ça peut être une très bonne chose pour des joueurs actuels de découvrir certains jeux de PS2. Ouais.
Mais ça serait de l'émulation comme sur PlayStation 3 où t'aurais des jeux qui sont... Tu devrais acheter sur le store parce que je pense pas que tu mets le CD dans la PS4 et ça fonctionne.
Non, ça sera des jeux... Alors, il n'y a pas de précision, mais je suis quasi sûr, vu que ça sera des jeux améliorés, etc., ça va être sur le PS Store à racheter. Ça. Je pense pas que ça sera une rétrocompatibilité des disques PS2 sur PS4.
Ouais, donc tu serais obligé de racheter le jeu, c'est... Oui. C'est pour moi, ça serait pas intéressant. Enfin, le truc qui est intéressant, c'est que, apparemment, sur Star Wars Jedi Starfighter, le jeu passe à 60 images par seconde, qui était 30 images par seconde sur PS2. Un anti-aliasing qui est beaucoup plus prononcé que par rapport à la console d'origine. Ça, c'est des choses qui sont pas mal. Mais pour des jeux que j'ai déjà fait, si tu dois encore raquer après avoir sorti les remasters de la plupart des grosses séries qui ont fait un carton, enfin, je trouve ça un peu limite, quoi.
Alors après, moi, honnêtement, j'en pense que... De toute façon, les mecs qui ont leur CD PS2, ils ont qu'à jouer sur PC, et puis voilà, ils font pas chier. non mais sérieusement, enfin aujourd'hui, quand tu vas émuler la PlayStation 2, tu vas sur PC. Alors ok, il faut un PC puissant, mais bon, enfin, un PC puissant. Aujourd'hui,
Non, il faut
un PC, quoi.
Ouais, pour un jeu PS2, il faut un PC. Ouais.
Il y a 4 ans, il fallait un PC puissant, aujourd'hui.
Ouais,
Donc voilà, quand tu veux faire une émulation d'une PlayStation 2 en mieux sans aliasing, tu joues sur PC, c'est tout, point. Après qu'il y ressorte sur le PSN, moi ça me dérange pas plus que ça. Alors certes, ça serait cool de leur part de faire en sorte que ceux qui ont déjà les jeux puissent y rejouer, mais honnêtement, j'y crois pas une seule seconde.
Non,
mais
moi non plus.
Voilà. Voilà. Bon, bah écoute, c'est une bonne nouvelle, mais... J'ai envie de dire, moi, si je veux jouer à des jeux PlayStation 2, j'ai déjà mon PC. C'est tout. Et enfin, pour terminer, ce podcast. Et oui, déjà. Désolé, hein, l'actualité cette semaine, c'était pas exactement ça. Et il se trouve qu'on est tous occupés sur certains jeux, donc voilà. Donc, on va vous parler d'un changement chez Valve, un changement de taille pour les soldes. Vous savez que habituellement, durant les soldes, il y a des ventes flash, c'est-à-dire que en gros, toutes les 24 heures, ça change, etc. En plus, t'as trois types de ventes, je crois, un truc comme ça. Enfin bref. Et ce qui se passe, c'est que se rendant compte que ce système était un peu compliqué, que de toute façon les gens attendaient que le jeu soit le moins cher possible pour l'acheter, Valve a décidé de supprimer tout ça, donc bazar de tout. Et maintenant, dès que les soldes Steam commenceront, eh bien, à ce moment-là, vous aurez tout de suite le jeu au prix le moins cher. Vous aurez pas besoin d'attendre et de faire F5 frénétiquement jusqu'à ce que vous tombiez sur le deal qui va bien. Non, non, dès le début des soldes et jusqu'à la fin des soldes, il sera à un prix fixe. Et puis voilà, c'est tout. Point. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Mais...
bah, moi, je pense surtout que ça va bien booster les statistiques de Valve. En 24 heures, on a vendu par exemple plus de 1 million de jeux. Je dis ça totalement au hasard. Mais parce que vu que les gens n'auront pas besoin d'attendre tel ou tel jour pour acheter leur jeu, donc ils vont avoir des très bonnes statistiques, si tu veux, sur les premiers jours, et après, en fait, ils vont donner les chiffres qui les intéressent.
Ouais.
Et puis après, en fait, bah, comme tout le monde aura fait le plus gros d'achat le premier jour ou le deuxième jour des soldes de Steam, après ça va se tasser parce que ça ne servira à rien d'attendre la dernière semaine, puisque ton jeu que tu veux sera déjà au bon prix.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est intéressant, surtout pour le consommateur, parce que il a pu arriver, en fait, sur Steam pendant les soldes, que on a l'impression de s'être fait enfler. Pourquoi? Parce que, en gros, vous avez toujours le prix fixe de la solde, grosso modo. Mettons qu'un développeur décide de mettre son jeu à moins 50% pendant les soldes de Noël de Steam. Voilà, tu te dis, bon, je vais le prendre tout de suite. Déjà, moins 50%, c'est pas mal. Et 3-4 jours après, mettons, ça passe en vente flash à moins 75%. Là, t'es un peu dégoûté, en fait. Tu te dis, franchement, pas cool, quoi. Et je me rappelle plus si ça m'est arrivé, mais certainement. Mais en gros, je pense qu'avec ça, avec cette politique-là, Steam montre que, voilà, tu as un prix de base, enfin, qui va être soldé à temps, pendant toute la durée des soldes. Si tu veux le prendre à ce prix-là, c'est bon, t'y vas. Tu n'auras pas besoin d'attendre une vente flash. Alors, est-ce que ça veut dire que... les daily deals vont disparaître, je pense pas. En tout cas, ils vont disparaître de ces périodes de soldes.
Oui, non, mais ils vont les garder. C'est sûr qu'ils vont les garder, ça.
Les soldes du week-end, les soldes de mi-semaine, tout ça, ça va rester, évidemment. Mais concrètement, je pense qu'il y aura plus l'espèce d'expectative qu'il y avait avant sur Steam pendant les soldes, qui était de est-ce que je le prends tout de suite ou est-ce que j'attends? Ça se trouve, ça va devenir une solde flash d'ici 3-4 jours, tu vois. Je pense que là, pour le coup, Valve encourage les gens à prendre tout de suite ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils vont s'y retrouver au final.
Oui, parce que comme tu dis, il y a des gens qui devaient aussi rater entre guillemets les jeux, parce qu'il y en a qui étaient en vente que sur une journée, et si bah ce jour-là tu pouvais pas aller sur Steam pour n'importe quelle raison, tu pouvais rater le jeu et du coup rater une vente pour eux aussi. Donc je pense qu'ils s'y retrouvent aussi. C'est plus avantageux pour nous consommateurs, mais je pense qu'ils vont s'y retrouver aussi, ouais.
Oui, clairement.
Je pense, moi, qu'ils y seront perdants au final. Parce que, enfin, souvent, tu vois, t'étais là, tu faisais F5, tu regardais, et là, à force de rester sur Steam, tu voyais des jeux qui ne t'intéressaient pas forcément au départ, mais là, tu faisais, ce jeu-là, il a l'air d'être un prix intéressant. Enfin, tu vois, je restais très longtemps sur Steam pour choper les bons deals. Et du coup, à force de rester sur Steam, tu voyais des trucs que t'avais pas forcément envie d'acheter non plus, tu vois.
Clairement.
Alors que là, qu'est-ce que vont faire les gens? Moi, en tout cas, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que les gens, ils ont leur liste de jeux qu'ils veulent en solde, ils vont aller acheter ces jeux-là, point.
Ouais. C'est vrai qu'il y aura pas l'achat coup de tête ah oui, il est à 1,50€, qu'est-ce que c'est 1,50€, tu vois. Oui, je suis assez d'accord avec toi, je pense. Il y aura peut-être moins de ça, mais au final, est-ce que c'est...
Moi, on est d'accord.
Est-ce que c'est mal?
Pour nous, c'est mieux.
Non, c'est mieux, mais si tu veux, enfin, c'est pour ça que je suis surpris de la décision de Valve.
Ouais.
C'est-à-dire que pour moi, cette décision n'est pas du tout bénéfique pour eux, en fait. Enfin, je pense qu'ils vont y perdre au final. Alors après, peut-être que ça fait partie d'un changement, enfin, justement, du changement de politique de Valve avec tous les remboursements, etc., pour se donner une image, si vous voulez, enfin une meilleure image que ce qu'ils ont actuellement, en tout cas. Peut-être aussi, hein.
Je sais pas s'ils vont y perdre, parce qu'au final, à supprimer les ventes flash, ça veut dire aussi que tu supprimes le deuxième volet, la deuxième démarque, concrètement. Ça sera, je pense que du coup, ça sera beaucoup moins Mammouth écrase les prix qu'avant. Donc, au final, ils vont peut-être vendre moins de jeux. Ça, c'est peut-être une, voilà, c'est sans doute vers ça qu'on s'oriente, mais ils vont peut-être vendre moins de jeux, mais peut-être un peu plus cher qu'avant.
Mais peut-être
que... Tu voulais dire quelque chose?
Ouais, en fait, tu parlais de ce qui était l'achat impulsif du petit jeu à 2€ que tu vois quand tu fais F5 et qui apparaît, et puis même si tu voulais pas forcément l'acheter, bah tu te dis, bon, bah 2€, voilà, je me laisse tenter, même si tu y joueras jamais, ou bien tu sais qu'il est dans ta liste aussi, mais tu veux pas y jouer un jour peut-être. Là, ils peuvent très bien le faire aussi le premier jour. Tu vois un jeu qui t'intéressait pas forcément, mais tu vois, bon, là, il est à 1,50€ dès le premier jour, par exemple. Bah tu te dis bon allez bon je peux le prendre maintenant et puis au final l'achat impulsif sera fait directement encore plus rapidement.
Ah ouais non mais là où je suis pas d'accord avec toi c'est que avant tu allais sur la page d'accueil parce que t'avais besoin d'aller sur la page d'accueil, c'est-à-dire que sur la page du jeu en lui-même tu n'arrivais pas à savoir si c'était vraiment le meilleur deal que t'allais avoir.
Ouais je vois.
Il fallait aller sur la page d'accueil en fait et c'est en fonction de la catégorie de deal dans lequel était le jeu que tu savais ah là ça y est il baissera pas plus. Or là, en fait, puisque le jeu aura dès le début son prix le moins élevé, t'auras pas besoin d'aller sur la page d'accueil de Steam. Tu iras directement sur la page du jeu, tu prendras le jeu et tu te casses.
Oui.
Oui, et puis la liste de souhaits t'orientera aussi.
Ouais. Parce qu'en plus, il y a ça, il y a la liste de souhaits effectivement où t'as un système qui fait que à chaque fois que tu émets un souhait sur un jeu, dès qu'il y a un deal sur ce jeu, on te l'envoie. Donc là, concrètement, ça veut dire que le mec, il va avoir, ça y est, c'est les soldes, ok. Donc il y a ce lien-là, j'y vais, j'achète. Je me casse. Bon, après, encore une fois, ça, c'est vis-à-vis de Valve. Nous, je pense qu'on est gagnant. C'est-à-dire que on n'aura plus la tentation en se baladant sur Steam.
Bah, déjà, ce qui est bien pour le consommateur, c'est que ça lui fera un gain de temps énorme, en fait. Il va venir le premier jour, dès qu'il va sur Steam, et puis il chope ce qu'il a envie de choper, et puis voilà, après, tu ne retourneras plus, enfin, sauf pour lancer ton jeu, bien sûr. Mais sinon, à part ça, le consommateur est gagnant.
Faut que tu rajoutes aussi le côté... jeu pendant les soldes. Parce qu'il y a aussi ce moyen d'incitation supplémentaire qu'a Valve, c'est-à-dire tous les joueurs qui sont attirés par la collectionnite du « je gagne toutes les cartes des soldes de Noël 2015 », ça va aussi les forcer à acheter peut-être un petit peu plus qu'avant et sur une période un petit peu plus allongée. C'est-à-dire que si le mec veut absolument le succès solde Steam 2015 de Noël, il va lui falloir acheter, je sais pas, mettons, en totalité peut-être 50€, et ensuite échanger les cartes qu'il a en double avec les autres gens sur le Steam Market. Ça aussi, ça fait partie de, on va dire, la période de fête de Noël sur Steam. Et je pense que ils vont réussir, à mon avis, à trouver un moyen pour faire en sorte que les gens reviennent aussi plusieurs fois pour débourser un petit peu plus.
Ou alors, je sais pas si vous avez vu des soldes sur Google Games récemment, ils ont fait un système qui est pas mal, c'est-à-dire que, en gros, t'as des paliers, un peu comme sur un Kickstarter, si tu veux, et une fois que t'as dépensé tant, en fait...
On t'offre un jeu.
On t'offre un jeu.
C'est excellent, ça.
Voilà. Ouais.
Ça, c'est pas mal, ça.
Donc, du coup, je pense que ça aussi, tu vois, c'est un moyen d'incitation d'achat impulsif qui peut être intéressant pour eux, quoi, entre guillemets.
Oui, si tu changes de jeu offert toutes les semaines, là, pour le coup, c'est tout bénef pour Steam.
Mais là, tu vois vraiment qu'ils ont repris tout ce qui est consommation de hypermarché, tout ça. C'est-à-dire, tu achètes deux gels douche, le troisième est offert. Et là, voilà. Tu vois bien que, que ça rentre aussi maintenant dans tout ce qui est politique économique de l'entreprise.
Ouais. Bien sûr. Et en plus, on rajoute un peu le côté gaming, pour peu qu'on mette un succès, tu vois.
Mais grave.
Ça, par contre,
succès spécial solde.
J'ai pas compris, cette histoire de succès. C'est-à-dire, si tu dépenses, 50€, comme tu as dit, Mandrain, dans ton exemple, il te débloque un succès sur Steam.
Non, c'est pas ça.
C'est pas un vrai succès, c'est un badge, en fait.
D'accord.
C'est des badges, ouais. Et, aussi, sur Steam, quand t'as certains jeux, tu gagnes des cartes, en fait.
Ouais.
Pour une raison qui m'échappe, hein, je vous avoue, parce que moi, par contre, je n'adhère pas du tout à ce genre de truc. Comme ils ont compris qu'il y a des joueurs qui avaient la collectionnique même pour des cartes virtuelles, ils ont mis en place ce système qui cartonne du feu de Dieu, quoi.
Mais ces cartes virtuelles sur les jeux, est-ce que c'est entre guillemets comme les amiibo, ça débloque quelque chose dans les jeux? Ou bien tu peux y jouer comme dans Magic ou un jeu spécial comme ça?
Non, mais par contre, elles s'échangent contre de l'argent.
Ouais.
Pour ceux qui veulent les collectionner.
C'est ça le truc. Il y a des mecs qui payent de l'argent pour ça, quoi. Enfin, t'arrives là, tu fais, mais, attendez, je suis en train de bugger, là. Moi, franchement, j'ai jamais compris comment il y avait des mecs qui pouvait dépenser de l'argent, même si c'est 30 centimes, hein, parce qu'en général, c'est ça, hein, c'est 30 centimes d'euros, sauf les cartes vraiment rares, etc., mais c'est des cartes qui valent rien, mais même 30 centimes, tu vois, je me dis, mais en plus, la carte, elle te sert à rien, tu vois, c'est juste une carte que tu as dans ta collection Steam, et le jour où tu arrêteras de jouer sur Steam, tu la verras plus, ta carte, elle te sert à rien dans les jeux, enfin, j'ai jamais compris ce délire avec les cartes, moi, personnellement.
Je pense que c'est le côté badge, en fait. Ouais. Les gens veulent crâner avec leur badge. Eh, t'as vu, je suis niveau 20 sur Steam, j'ai tel badge que personne n'a, machin. Je pense que c'est ça, le délire.
Bah, s'ils veulent des badges, moi, je leur conseille plus de jouer à Pokémon.
Ah, pour le coup, ils seront servis en plus sur le côté collectionniste.
C'est vrai que...
Si ça se trouve, tous les utilisateurs de Steam qui aiment ce système de badge sont des fans de Pokémon qui s'ignorent.
Hein, c'est vrai que, du coup, s'ils lancent un Pokémon sur Steam, ça peut cartonner encore plus.
Oh non! Ah oui, non, mais t'imagines un Pokémon sur Steam avec un système de cartes et tout. Hein. Ah, il faut qu'on se mette l'idée à Nintendo. Hein,
Bah, vu que maintenant ils travaillent avec iOS et Android, peut-être.
Ah bah oui, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, truc à faire.
C'est ton jamais. Non, ouais.
Bon, messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette semaine. Ma foi, un podcast qui fait bien court, mais en même temps, l'actualité, on va pas l'inventer, n'est-ce pas? Je précise qu'au passage, les podcasts s'arrêteront probablement à partir de la semaine qui suit le dimanche 13 décembre, qui sera probablement le dernier podcast qu'on enregistrera pour cette année.
Ouais.
Parce que après, j'ai envie de dire, c'est les fêtes. Déjà, on n'a pas que ça à faire, nous, de notre côté. Et en plus...
Il se passe rien.
Ouais, non, mais voilà, il se passe rien. Enfin, ça redémarre petit à petit en janvier. Et encore, je suis même pas sûr qu'on redémarre à la première semaine de janvier, je pense pas. Je pense que ce sera la deuxième semaine de janvier.
Le temps de décuver, voilà. Tout ça, hein.
Ouais, quand on se bourre la gueule au champomis et tout, attention, hein, c'est... Voilà, donc de toute façon, je pense que le podcast va tourner au ralenti dans les semaines qui viennent. On aura peut-être un ou deux jeux dont on va pouvoir parler, mais voilà, enfin, ça sera pas non plus fou. Vous attendez pas des podcasts de 2 heures, parce que c'est pas au programme du tout, là. Allez, messieurs, dames, jouez bien, voilà, à la semaine prochaine. Salut à tous.
Salut.
Salut.
Ciao.